Les allers-retours, la langue, la musique, c'est la règle de trois de Akira Mizubayashi. Né il y a 68 ans à Sakata, il commence ses allers-retours entre le Japon et la France au sortir de l'université de Tokyo. En 73, il a 22 ans et obtient une bourse pour suivre une formation d'enseignant à l'université Paul Valéry de Montpellier. Dans l'Hérault, il rencontre sa femme Michelle. Ensemble, ils s'installent à Tokyo 3 ans plus tard. En 79, retour à Paris où Akira Mizubayashi entre à Normale Sup. Très attiré par la philosophie des Lumières, il s'intéresse particulièrement à Rousseau, ainsi qu'à l'analyse de son œuvre par l'historien suisse Jean Starobinski.
Pour Rousseau, à l'origine, la langue et la musique, le langage et la musique ne font qu'un.
Akira Mizubayashi enseigne la langue et la littérature française à Tokyo de 83 à 2017. Après plusieurs essais et romans en japonais, il publie en 2011 son premier livre rédigé directement en français, Une langue venue d'ailleurs. À l'époque, il se dit fatigué par la langue japonaise, élément d'une culture extrêmement ritualisée où l'individu se définit par sa position sociale et s'efface devant la communauté.
On a une posture d'énonciation particulière à chaque langue, donc on ne dit pas la même chose.
Depuis, il a écrit 6 autres livres en français, romans, récits ou essais. Dans l'espace entre ces deux langues, il se sent désormais doublement étranger, situation qu'il considère idéale pour observer le monde. La musique accompagne Akira Mizubayashi depuis très longtemps. À 10 ans, il est bouleversé par Mozart et les Noces de Figaro. Aujourd'hui, dans son dernier roman, Âme brisée, le quatuor à cordes de Schubert, dit Rosamund, joue un rôle important. En évoquant cette œuvre de Schubert et en voyageant de Tokyo à Mirecourt dans les Vosges, dans Âme brisée, Akira Mizubayashi réunit la langue et la musique.
Âme brisée, merveilleux roman. Je précise qu'on peut ne pas faire de musique ou connaître mal la musique et être pourtant bouleversé par ce roman qui évoque, entre 1938 et les années 2000, le destin d'un petit garçon qui grandira, un petit garçon au rêve mutilé, au violon mutilé, le violon de son père qui lui est confié alors que son papa disparaît sous ses yeux. Je n'en dis pas plus, mais tout de même une question à Akira Mizubayashi. Votre père, pendant la guerre, écoutait Mozart et a persisté à écouter Mozart, je crois, malgré les autorités qui étaient xénophobes et très nationalistes, anti-musique occidentale. Il y a quelque chose d'un parfum autobiographique aussi dans ce vrai roman.
Au niveau de la narration, il n'y a rien qui soit autobiographique. J'ai tout inventé. Mais peut-être dans le personnage du père, Yu Mizusawa, il y a quelques éléments peut-être paternels. Voilà, j'ai projeté l'image de mon père dans ce personnage. Et puis... par la force des choses, je me suis projeté dans le personnage de l'enfant de 11 ans. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme parfum autobiographique. Sinon,
que ce soit
au niveau de la narration, tout est inventé.
Et c'est en français. Et vous écrivez depuis 2011 dans la langue française. Et vous avez même dit il y a quelque temps, je n'écrirai plus jamais en japonais. C'est une décision qui semble sur laquelle je ne reviendrai pas. Pourquoi écrire en français ?
Je dirais plutôt que j'ai suspendu mon activité d'écriture en japonais pour une durée indéterminée. Et voilà.
Vous étiez un malade linguistique par rapport à la langue japonaise ?
Moi, quand j'ai décidé d'apprendre le français, j'avais effectivement un sentiment de malaise linguistique en moi. Et j'avais besoin de partir ailleurs, et c'est comme ça que je suis tombé sur le français. Mais depuis 2011, l'année de la catastrophe de Fukushima, j'avais rencontré mon éditeur, mon premier éditeur de chez Gallimard, Monsieur Pontalis. C'est lui qui m'a incité à écrire en français sur mon rapport à la langue française, ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai écrit Une langue venue d'ailleurs, mon premier livre. Et pour la promotion de ce livre, je suis venu à Paris en mars 2011. Et c'est le jour de la catastrophe
que
j'ai pris l'avion. Voilà.
Ça. Benjamin.
Sur la langue, vous dites des choses, vous dites que le japonais, la langue japonaise dit beaucoup aussi de la verticalité de la société japonaise.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par cela ?
Alors, je dirais que, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que la société japonaise est une société disons, extrêmement hiérarchisée.
Qui privilégie le collectif sur l'individu.
Voilà, c'est ça. Et puis chacun soumet sa position par rapport à son interlocuteur. Et si l'interlocuteur varie, évidemment, la position qu'on occupe change. Et donc je dirais volontiers que la structure hautement hiérarchisée de la société japonaise est encastrée.
Dans la langue.
Inscrite dans la langue. Donc la langue aussi, elle dispose d'un certain nombre d'outils qui reflètent cette structure-là.
Une langue coercitive, en quelque sorte, d'une certaine façon. Oui. Vous avez évoqué Fukushima, vous êtes arrivé en 2011, le jour de la catastrophe de Fukushima, pour voir votre éditeur. Évoquons les JO. En 2020, qui auront lieu donc l'année prochaine avec Akira Mizobayashi Fukushima, le souvenir de Fukushima.
Exactement, parce que le gouvernement japonais fait tout pour effacer cette mémoire traumatique de Fukushima et pour donner l'impression que le site de la centrale est totalement sous contrôle. Il s'est donc démené pour que les JO de 2020 se tiennent à Tokyo. Et le gouvernement, on vient de l'apprendre, veut également aujourd'hui qu'une partie de la nourriture qui sera servie aux athlètes dans le village olympique provienne de Fukushima. On parle donc de riz, de fruits, de bœuf, de légumes qui ont été cultivés ou élevés sur le sol où a eu lieu la catastrophe. Et pour prouver sa bonne foi, le gouvernement de Shinzo Abe fait passer des tests de radiation à la nourriture par une agence qu'il a lui-même choisie, c'est-à-dire pas par une structure indépendante. On peut rappeler également, et c'est très inquiétant, que des millions de tonnes d'eau contaminée sont toujours stockées sur le site de la centrale. Comment est-ce que cette propagande arrive aux oreilles de la population? Et est-ce qu'on a le droit de dire, quand on est japonais aujourd'hui, je suis inquiet de Fukushima, je ne veux pas que les JO aient lieu dans mon pays? Comment ça se passe?
Il y a des personnes, il y a des Japonais qui ne sont pas d'accord avec ce projet de faire venir les Jeux Olympiques. Et puis il y a des Japonais qui essayent de lutter contre cet oubli.
Ce déni.
Ce déni.
Et peuvent-ils le dire et l'exprimer?
Minoritaires.
Et ils peuvent l'exprimer? Ce désaccord.
Difficilement, disons.
Ils se font traiter de ikokumin, de personnes n'étant pas dignes d'être japonais.
Alors,
comme votre personnage
ce
dans
mot
le roman.
Que j'ai utilisé dans mon roman, il était très très courant dans le contexte de 1938, mais ce mot, personne n'ose l'employer aujourd'hui, parce que ça rappelle tout le passé militaro-fasciste du Japon contemporain. Donc on considère que c'est du passé. Heureusement, quelque part, ce mot est tombé dans l'oubli. Personne n'oserait parler.
L'employer.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez du discours du pape à Hiroshima, appelant à l'abandon de l'arme nucléaire, du nucléaire militaire, et évoquant l'immoralité du nucléaire militaire? C'était hier.
C'est ce qu'il y a de plus sensé. D'ailleurs, si j'ai écrit ce roman, et si je dédie ce roman à tous les fantômes du monde, j'ai voulu raconter l'histoire d'un fantôme dont le fantôme précis dans ce roman, c'est le personnage du père, mais dans ce roman, il y a les souvenirs d'Hiroshima qui sont présents, il y a même le souvenir du bombardement massif de Tokyo du 10 mars 1945 qui a entraîné 150 000 morts à une nuit, autant de victimes qu'à Hiroshima. Et je considère que toutes ces victimes, ce sont des fantômes, pour moi. Voilà. Ce sont des gens qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout de leur mort. Et pour moi, la définition du fantôme, c'est ça. C'est quelqu'un qui est mort ou qui meurt, mais qui ne peut pas aller jusqu'au bout de sa mort.
Arrêté dans le processus. Merci.